L'actualité des idées aujourd'hui, maintien de l'ordre, une image à pacifier, les manifestations sous surveillance, où en est-on de la relation police-manifestant, photo état des lieux ce midi alors que la loi pour une sécurité globale arrive le 17, la semaine prochaine, à l'Assemblée nationale. Un texte qui envisage dans certaines mesures controversées, polémiques, de restreindre notamment la liberté des manifestants de photographier ou de filmer les policiers. Notre invité, il est sociologue, Fabien Jobard est directeur de recherche au CNRS, auteur avec Olivier Filliol de « Politique du désordre au seuil », un livre qui interroge la montée en gamme des violences dans les manifestations, des affrontements entre la police aussi et les manifestants, dans un contexte de tension sociale toujours plus forte, en tout cas plus forte qu'auparavant. Bonjour à vous Fabien Jobard.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que dans ce livre-essai, vous avez tenté de théoriser ce qu'on appelle un peu communément le jeu de chat et de la souris qui se joue dans des défilés, dans des manifestations, et de manière plus scientifique, ce rapport entre ordre et désordre.
C'est effectivement un peu l'ambition qui a été la nôtre. En fait, avec Olivier Filliol, on a travaillé dès la moitié des milieux des années 90 sur les questions de maintien de l'ordre. Et on a travaillé du côté tant manifestation que du côté institution en charge de maintenir l'ordre, institution répressive, police et gendarmerie. Et on s'est remis au travail sur ces questions aux alentours de la fin de la première décennie 2000 et puis tout récemment encore. Et donc on a tenté de faire le bilan de 30 ans de recherche pour essayer de comprendre au fond comment dans la longue durée, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, l'État envisage le rapport à la contestation de rue et comment les formes que prennent d'un côté les contestations, de l'autre leur répression ou leur gestion évolue en fonction des époques, en fonction des politiques, en fonction des conjonctures économiques. Donc on a essayé de à la fois d'avoir un point de vue un peu technique sur ce qu'est le maintien de l'ordre, ses armements, ses personnels, ses équipements, ses doctrines, et puis d'insérer ce point de vue-là dans une perspective plus large.
Vous parlez de réinterroger les évidences hein, sous le signe de Michel Foucault. Qu'est-ce qu'une manifestation? Qu'est-ce qu'elle engendre? Quelle mise en mouvement? Quelle réaction? Comment le droit de manifester aussi a-t-il évolué au gré de quelle friction, de quelle tension dans ce rapport entre ordre et désordre? Vous écrivez dans cet ouvrage « Politique du désordre », le maintien de l'ordre est indexé à des politiques du désordre entre le désordre que les manifestants entendent produire ou ne peuvent empêcher et celui que le pouvoir tolère ou encourage. Et c'est ce que vous étudiez à travers quelques grandes dates, et notamment les évolutions de doctrine de maintien de l'ordre qui ont pu avoir lieu. Il y a un fait, je pense, accessible et perceptible pour beaucoup, c'est l'évolution et la montée des violences ces deux, trois dernières années dans les défilés, dans les manifestations. Comme beaucoup, est-ce que vous avez, vous, Fabien Jobard, manifesté ou assisté, regardé des manifestations dans les années 90 et récemment encore avec le mouvement des Gilets jaunes, comme beaucoup, on imagine que vous avez vu cette différence. On va repartir d'une date, si vous voulez bien, 1er décembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes.
Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime.
Vous me faites pitié, vous me faites pas peur. Je vous dis ouvertement, oui, moi j'ai cassé samedi, oui, je me suis battu avec un CRS.
«
J'ai eu la peur de ma vie, vraiment. J'avais jamais connu ça, une telle haine envers nous.
Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées ou que l'arc de triomphe soit souillé.
Mon fils, je peux pas lui acheter des cadeaux à Noël. J'irai jusqu'au bout, je me battrai pour mes enfants.
C'était vraiment sans pitié. Tout le monde s'est regardé, mais qu'est-ce qu'on fait? C'était violent. Vraiment, là, c'était une guerre.
Bouclier! Bouclier!
Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence.
Ne
faites
pas une manifestation, c'est la guerre!
1er décembre 2018, Fabien Jobard, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit? On a parlé de scènes de guerre sur ces images des Champs-Élysées. Qu'est-ce que vous percevez dans cette journée, dans ce 1er décembre 2018 de si différent?
Alors, je perçois pas la guerre, parce que je pense que un des soucis qu'il y a dans la gestion des désordres et dans leurs commentaires, c'est le suremploi du mot guerre. S'il y a vraiment une chose qui distingue le maintien de l'ordre en France, les opérations de police des manifestations ou de la protestation en France, avec tout un ensemble d'autres pays, notamment les pays latino-américains et même les États-Unis, c'est qu'on n'emploie jamais l'arme à feu. Et ça fait quand même une différence majeure. Je pense que ceux qui parlent de guerre peuvent l'être sous l'effet de l'émotion, bien sûr, parce que quand on est pris dans de telles scènes, on a évidemment énormément de mal à prendre la mesure des choses. Par ailleurs, il y a des armes de guerre qui sont entre les mains des policiers, mais l'arme à feu n'est jamais employée. Et ça, et c'est bien sur fond, d'ailleurs, de cette éviction progressive tout au long du XXe siècle de l'arme à feu que se déroulent des violences, des destructions, des dégradations, des atteintes aux policiers, aux bâtiments, aux équipements publics, sans doute aussi parce qu'on sait que l'arme à feu sera pas employée. Ça, c'est la première réflexion qui me vient à l'esprit. La deuxième, c'est que, au fond, ce qui caractérise le 1er décembre 2018, hein, donc c'est la troisième manifestation des Gilets jaunes, elle donne lieu à des affrontements très durs, on les a entendus, sur les Champs-Élysées, notamment à Paris. C'est qu'au fond, c'est une manifestation, c'est un événement qui nous replonge un siècle en arrière. Au moment où les syndicats ne disposaient pas de services d'ordre. Au moment où les manifestations n'étaient pas négociées avec la préfecture, on ne s'entendait pas sur un point de départ, un point d'arrivée, une heure de commencement, une heure de dispersion. Au moment où, au fond, le manifester, c'était une initiative laissée au désordre individuel collecté, sans organisation. Et c'est, au fond, le 1er décembre 2018 représente un peu, pour nous, une forme paroxystique de ce qu'est la manifestation dans un pays dans lequel le salariat a décru, les organisations syndicales n'ont plus l'assise, n'ont plus l'emprise qu'elles avaient. D'une certaine manière, c'est une forme exacerbée de la manifestation en contexte néolibéral. Ce sont des employés de toutes petites entreprises, ce sont des indépendants, ce sont des libéraux, ce sont des gens qui aussi entre salariat, non salariat, qui ont manifesté le 1er décembre 2018. Et en cela, on retrouve des formes manifestantes qui étaient celles que on avait en France avant les années 20.
Et puisque vous parlez de ce contexte, la question du travail, c'est vrai qu'on voit la différence des images avec les défilés du 1er mai, plutôt bon enfant qu'on a connu dans les années 80, 90, voire 2000, à l'appel des syndicats, et encadrée par les services d'ordre des organisations syndicales. Ces politiques de maintien de l'ordre, et vous le racontez dans cet ouvrage, elles ont beaucoup évolué. Vous revenez sur cette longue histoire et sur ce qu'on a appelé l'école française. C'était quoi cette école dite de la pacification ?
Alors effectivement, c'était une doctrine de maintien de l'ordre qui visait toujours à gérer les foules plutôt que frapper les individus. On a essayé de mettre en place du côté du pouvoir, du côté des organisations policières, des instruments et des doctrines qui mettent à distance les foules, les groupes, les agrégats, en essayant d'entraîner le moins de dégâts individuels possibles. Et donc, il y a au fond trois moyens qui sont exemplaires de ça. Le premier, c'est le canon à eau, parce que le canon à eau ne blesse pas, mais permet de tenir à distance une foule. Le gaz lacrymogène permet également de tenir à distance une foule sans provoquer de blessures corporelles. Et puis, troisième point, l'abondance de force. L'un des points centraux du maintien de l'ordre dans les années 70, 80, 90 consiste à dire que il faut montrer notre force pour ne pas avoir à nous en servir. Or, ce qui s'est produit depuis la fin des années 90, c'est qu'on a de plus en plus vidé les compagnies républicaines de sécurité, donc les CRS et les gendarmes mobiles, de leurs effectifs. Parce que, au fond, les gouvernements successifs se sont peu à peu convaincus de l'idée selon laquelle l'ère des grandes manifestations, le mouvement ouvrier, tout ça, ça appartient au passé. Et on n'a plus besoin de ces lourdes forces aux larges effectifs, compliqués à manœuvrer, réputés très onéreux. Et donc, on va plutôt former des petites escouades de policiers, de police urbaine, très mobiles, type brigade anticriminalité. Parce que aujourd'hui, les désordres, ce sont les émeutes urbaines et ce sont plus les grandes manifestations. Et lorsque, avec le mouvement de protestation contre la loi El Khomri en 2016, mouvement Nuit Debout, puis évidemment les Gilets jaunes. Lorsque le mouvement social revient sous ses formes classiques, eh bien en face, les forces de police n'ont plus du tout les effectifs qui leur permettaient auparavant de gérer ces phénomènes-là. Et donc le 1er décembre 2018, pour y revenir, le mouvement des Gilets jaunes, c'est la rencontre de ces deux mouvements-là. Mouvement d'atomisation du travail et du salariat d'un côté, des agrégations, des organisations syndicales et de leur capacité à encadrer des foules, et de l'autre côté, atrophie des capacités de maintien de l'ordre de l'État.
Et toujours dans ce rapport de tension qu'on évoquait au début de l'entretien. 2018, 68 ou post-68, si on cite une autre date, le début de cette doctrine de pacification, et 95, hein, avec les manifestations contre la réforme des retraites, et ce pouvoir, comme on dit, hein, le pouvoir qui est dans la rue, le pouvoir qui est en capacité de faire plier un gouvernement, de faire reculer une réforme. Est-ce que c'est cette crainte-là qui a inspiré au fil des années le durcissement des politiques de maintien de l'ordre, et jusqu'à récemment, si on revient encore à 2018, le parallèle, est-ce que vous le faites, entre 1995 avec le mouvement des Gilets jaunes ?
En fait, 1995, c'est une date très importante parce que le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, qui est ministre donc d'un gouvernement d'un gouvernement conservateur, d'un gouvernement de droite, Alain Juppé attribue un pouvoir à la rue. Ce pouvoir, comme vous dites, de remettre en cause des politiques qui auraient été voulues par le gouvernement. Et il dit, si il y a demain N millions de manifestants, alors nous retirerons le projet. Et il y a eu N millions de manifestants, et le projet a été, pour moitié en tout cas, retiré. Et ça, cette déclaration, c'est-à-dire cette abdication du gouvernement devant la rue a été vécue par un traumatisme pour l'ensemble des gouvernements de gauche et de droite qui lui ont succédé. Et tous ont répété, à commencer par le Premier ministre Raffarin en 2003, puis François Hollande ensuite, en passant bien sûr par Nicolas Sarkozy, tous ont répété « la rue ne gouverne pas, ce n'est pas la rue qui gouverne ». Et du coup, ils ont frappé de mort la manifestation classique, parce qu'ils ont dit « défilez, défilez, défilez tant que vous pourrez ». Mais vous ne pèserez pas sur les politiques publiques, vous ne pèserez pas sur nos choix. Et donc on est dans un pays qui durcit très très vite les confrontations et les positions. Parce que
ça veut dire que c'était une invitation pour vous à la surenchère,
très sélectif. Système majoritaire à deux tours. On n'a pas du tout un système comme en Allemagne, un scrutin de liste où beaucoup plus de tendances sont représentées. On a un régime par ailleurs présidentiel du côté de l'exécutif et on retire et la rue au fond permettait dans une certaine mesure de contrebalancer les effets de ce système électoral. Lorsque les gouvernements disent la rue peut défiler mais nous ne l'écouterons pas, alors la manifestation est frappée d'inanité. Les gilets jaunes lorsqu'ils arrivent en 2018, c'est ce qu'ils disent aussi, ils en tirent les leçons, ils disent ce n'est pas en manifestant de manière classique qu'on se fera entendre. Donc on va revenir à des formes pré-manifestantes de manifestation. Et d'ailleurs, beaucoup disent, il n'y a que par la violence qu'on peut se faire entendre. T'as entendu que la violence, c'est principalement destruction, dégradation. Et c'est ça qui marque, au fond, l'évolution de la confrontation, l'évolution des politiques de l'ordre et du désordre.
Du déni politique, d'une certaine manière, à la surenchère aussi des violences. Vous soulignez l'importance, dans ce durcissement, de la bataille de la communication qui se joue. Vous m'entendez, Fabien Jobard ?
Allô ?
Allô, allô, Fabien Jobard. On va peut-être trouver juste le temps de se retrouver. En tout cas, nous, on vous entend très bien, Fabien Jobard. Est-ce que là, vous m'entendez de nouveau ? Alors, on va peut-être revenir.
Oui, je suis, oui, je suis à vous, excusez-moi.
Vous m'entendez, parfait.
Je vous entends, pardon.
Bon, pardon, c'est que vous êtes à distance, dû à la contrainte sanitaire.
Bien sûr.
Vous êtes invité à rester chez vous et nous sommes, nous, confinés ici en studio. Mais c'est un plaisir, on vous entend par ailleurs très bien. Quand la connexion marche, c'est des petits sursauts qui peuvent arriver. Je voulais vous interroger sur cette bataille de la communication que vous mettez aussi en avant. Dans votre ouvrage, Fabien Jobard, Politique du désordre, cet ouvrage qui paraît au Seuil et dont vous êtes le co-auteur avec Olivier Filliol, cette bataille de la communication et la place qu'elle a prise dans ce durcissement, est-ce que vous la percevez comme une nouvelle dérive ? Vous évoquez, vous, la peur policière devant la toute-puissance des médias ?
Oui. On voit du neuf là-dedans et on voit du très ancien. En fait, lorsqu'on s'entretenait avec les responsables policiers du maintien de l'ordre au milieu des années 90, l'une de leurs principales préoccupations, c'était déjà les images. Et c'était déjà l'idée selon laquelle ils étaient susceptibles de perdre la bataille de l'image. Et dès le milieu des années 90, les escadrons de gendarmerie mobile et les CRS étaient équipés de caméscopes qui filmaient l'ensemble de la manifestation, en tout cas qui tentaient de le faire, pour pouvoir offrir des images à d'éventuelles procédures judiciaires et aussi offrir des contre-images à celles qui étaient diffusées. Il y a une idée, de toute façon, qui est partagée par les policiers, c'est que les médias travaillent toujours à charge, contre eux. Et ils ont toujours le sentiment que les médias ne presse écrite, presse télévisée, donnent une mauvaise image de leur travail. Aujourd'hui, bien sûr, ce qui a changé, c'est l'équipement de chaque citoyen, de chaque spectateur, de chaque manifestant d'une caméra portative sur son portable. La préoccupation, elle a pas changé. Elle s'est simplement durcie. On aurait pu croire que la diffusion des images de violences policières ait un effet de tempérance sur les comportements policiers. Ce qu'on a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, également le mouvement Loi Travail, c'est que ça n'a pas été le cas. Ça reste en partie énigmatique pour nous, parce que c'était pas ce qui était anticipé dans les années 90-2000. On était convaincus, dans le fond, que la démocratisation de l'image s'inscrirait, contribuerait à la pacification continue du maintien de l'ordre. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, la loi est en discussion devant le Parlement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui vise à restreindre la capacité de diffuser les images, mais c'est évidemment une bataille perdue. Vous ne pouvez pas avoir, au cours d'une manifestation, une rafle de ces plusieurs dizaines de manifestants et spectateurs qui filment pour empêcher la diffusion des images, de même que vous n'aurez pas un système judiciaire entièrement consacré à la poursuite de des centaines de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.
Mais ce qui est intéressant peut-être, pardon Fabien Jobard, sur ce point, c'est qu'il y a effectivement un droit des médias et des citoyens d'opposer leurs images à celles de l'État aujourd'hui. En tout cas, c'est ce droit-là que demandent des cinéastes, des gens d'image, au nom aussi des citoyens, dans une pétition qui a été publiée dans Libération. Elle dessine la réforme actuelle parce que ces questions-là et différents amendements vont être discutés à l'Assemblée à partir de la semaine prochaine avec un renforcement aussi des dispositifs de filmage de la part des forces de l'ordre. Elle dessine un paysage asymétrique, disent les pétitionnaires, sorte de panoptique géant où d'un côté nos libertés fondamentales sont gravement menacées, en premier lieu le droit à la vie privée, à la liberté d'information, et de l'autre ce pouvoir donc renforcé du côté des forces de l'ordre. On se dit qu'avec des mesures comme ça, le film peut-être de David Dufresne qui a signalé depuis le début les violences policières et ces images amateurs ne seraient plus possibles.
Bon, écoutez, moi je veux pas anticiper de la forme que prendra la loi une fois que le Conseil constitutionnel se sera prononcé dessus, parce que il est certain que la liberté d'informer est une liberté fondamentale et que par ailleurs est déjà inscrit dans la loi qu'on ne peut par des images ou par quelque autre moyen que ce soit faire violence à qui que ce soit. Donc lorsque la loi qui est actuellement en discussion, c'est une loi qui, comme souvent aujourd'hui, utilise le code pénal pour pouvoir rassurer des groupes d'intérêt. Donc en l'espèce, ce sont les syndicats policiers. La loi ne fait d'une certaine manière que répéter ce que d'autres dispositions pénales prévoient depuis des décennies déjà. Elle n'introduit pas d'innovation. Mais simplement, bien sûr, le simple fait qu'elle soit prise peut encourager les policiers à se diriger vers quiconque porteur d'un téléphone portable, lui saisir le téléphone portable, le placer en garde à vue, parce que le policier estime qu'il y a une loi qui désormais interdit de filmer. Donc, bon, je d'un point de vue formel, la loi, à mon avis, dans sa rédaction actuelle, est une mauvaise rédaction, est un sac de nœuds pas possible, ne change pas grand-chose, mais dans la façon dont elle va être diffusée, dont elle peut être diffusée auprès des policiers et des gendarmes, fait peser un lourd risque pour les libertés individuelles de celles et ceux qui filment ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est que
mais vous dites d'un côté
notre loi fondamentale, la loi européenne également, la Cour européenne des droits de l'homme protège comme valeur absolue la liberté d'informer. Et cette loi-là ne pourra rien contre ça.
C'était à peu près le sens aussi des propos de Christophe Castaner récemment sur cet article 24, de dire qu'elle ne pourrait pas en tout cas tout empêcher dans les mesures telles qu'elles étaient pensées. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi l'importance de donner des gages à des opinions. Alors d'un côté, avec ces mesures, de donner le sentiment aux syndicats de police et aux corps policiers qu'ils sont protégés par le gouvernement et par l'État. Et de l'autre, ça donne aussi à l'opinion le sentiment quand même d'un chèque en gris. C'est l'expression que vous employez dans le livre. C'est-à-dire d'un mandat, d'une sorte de liberté qui est donnée de plein pouvoir à la police par le pouvoir politique. C'est un double message,
oui,
en fait, qui est délivré.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait passer des lois qui ont vocation non pas à définir des nouvelles infractions qui seront jamais poursuivies, mais qui ont vocation à adresser des messages à des clientèles ou des groupes d'intérêt. Là, il sera très difficile, si la loi passe dans sa rédaction actuelle, d'empêcher un policier d'aller saisir un téléphone portable. Parce que le policier pourra toujours dire « Je suis certain qu'il me filme, c'est en direct, et donc il me nuit, il nuit à ma stabilité psychique. » Aucun procureur, à mon avis, ne pourra le suivre, le policier, mais le mal sera fait. La personne sera interpellée, le téléphone portable sera saisi et il passera une nuit en garde à vue. Il sera d'ailleurs du reste inscrit dans les fichiers de police d'infraction constatée et donc est empêché d'exercer son droit de manifester. Donc en ce sens, oui, l'instrumentation de la loi pour dans le cadre de transactions incessantes entre le pouvoir politique d'un côté et les syndicats de police de l'autre rongent nos libertés publiques.
Pour conclure, Fabien Jobard, vous appelez à un retour à la précédente doctrine du maintien de l'ordre aujourd'hui, à cette école de la pacification. Pourquoi est-ce qu'il est important maintenant de désengager de se désengager de cette violence et de ce durcissement en cours depuis une vingtaine d'années?
Oh ben, je crois que la raison pour laquelle c'est important, c'est que je pense qu'il est difficile de convaincre la population française aujourd'hui de croire dans les mécanismes de la démocratie représentative, c'est-à-dire l'idée que leur vote est décisif, l'idée que participer électoralement sert la démocratie, si le pouvoir, une fois élu, refuse d'entendre des contre-pouvoirs et surtout inflige aux manifestants des blessures qui sont des blessures irréversibles. Je crois qu'il y a peu de démocratie, en tout cas en Europe il n'y en a pas, dans lesquelles un mouvement social est amené un tel volume de mutilations en 12 ou 18 mois. Donc, effectivement, on n'appelle pas... La doctrine, elle n'a pas changé. La doctrine est la même. Mais ce sont les armements, ce sont les équipements, ce sont les effectifs, ce sont les entraînements qui, peu à peu, par des inflexions successives, ont changé. Et surtout, c'est le caractère intraitable des gouvernements qui se succèdent.
Voilà, les discours,
de gauche, de droite, ouais. Sur le caractère inaudible de la rue.
Merci.
C'est tout ça qu'on verra.
Merci
pour
beaucoup.
Offrir ce paysage-là.
Merci Fabien Jobard. Je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Olivier Filliol de Politique du désordre qui paraît au seuil. Merci. France Culture, il est 13h23 tout de suite. Comme un jeudi sur deux, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier.
Le rendez-vous de la médiatrice.
Sandrine Trainer, bonjour. France Culture a retransmis en direct dimanche dernier, le 8 novembre, une messe qu'ont célébrée par trois prêtres avec, je cite, chorale, organiste, assemblée de fidèles entonnant les chants et récitant les prières, constatent des auditeurs. Il vous pose la question suivante. Comment cette entorse au confinement a-t-elle été autorisée par la chaîne alors même que le Conseil d'État a confirmé le 7 novembre dernier les mesures d'interdiction des cérémonies religieuses avec public compte tenu de la gravité de la situation sanitaire?
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je dois dire que j'ai posé la question car, un, je n'y étais pas et deuxièmement, en l'occurrence, je ne suis pas mandatée pour faire des dérogations aux instances religieuses qui s'expriment sur l'antenne. Donc, j'ai posé la question à Jérôme Rousse-Lacordaire et je vous lis tout simplement sa réponse. La messe est fermée au public et la chapelle n'ouvre qu'après la messe. Ne sont présentes que les sœurs du lieu qui vivent ensemble dans le couvent, leurs aumôniers, l'organiste, seul dans la tribune de l'église, et le chantre, chacun à bonne distance et avec un masque. Les techniciens sont dans une pièce séparée. Autrement dit, et nous allons publier cette réponse sur votre site, cher Emmanuel, autrement dit, les conditions de sécurité ont été tout à fait respectées et aucune autorisation, dérogation particulière n'a été accordée par la chaîne.
Très bien, merci pour cet éclairage. On poursuit avec la couverture éditoriale de l'élection américaine et cette question, pourquoi la grande majorité de vos invités sur toute la période consacrée à l'élection américaine étaient des pro-Biden ou des anti-Trump?
Alors écoutez, c'est une assertion qui... qui engage surtout ceux qui vous écrivent. Écoutez, nous n'avons pas cherché à faire ni du pro-Biden, ni du pro-Trump, et au fond, juger des uns et des autres n'offre qu'assez peu d'intérêt. Ce que nous essayons de faire sur France Culture, je crois, ce que nous sommes parvenus à faire, c'était de rendre compte des enjeux de cette élection et des enjeux de cette longue attente des résultats. Je crois que la rédaction de France Culture et les rédactions de Radio France, à travers la rédaction internationale conduite par Jean-Marc Four, ont fait un travail tout à fait exceptionnel de documentation et de reportage. Et là est l'essentiel. Ensuite, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, la plupart des experts des États-Unis, des experts tout court, sont généralement assez peu favorables à Donald Trump. On peut par ailleurs les comprendre ou les désavouer, mais je crois que l'essentiel pour nous, c'était vraiment d'essayer de comprendre et non pas de juger. J'espère que les auditeurs, nonobstant cette remarque, conviendront que c'est ça que nous sommes parvenus à faire.
Sandrine Trainer, des auditeurs nous ont écrit au sujet de l'interview de Marc Weitzman avec la représentante de l'UNEF, interview qu'ils jugent agressive. Ils estiment que le producteur de l'émission Signe des Temps profite, je cite, de sa situation dominante de journaliste pour rabaisser son invité. Ils considèrent que cette manière de mener l'échange dessert le débat démocratique. Cette critique vous paraît-elle fondée ?
Écoutez, je vous dirais qu'il y a une question de forme et de fond. Donc nous étions ce jour-là, Marc Weitzman était en direct. Je ne crois pas qu'il ait abusé d'une situation dominante. Non, pas du tout. Je crois qu'effectivement il y a eu un débat et un débat qui était un débat au fond politique, idéologique, intellectuel, qui a pris une forme qui n'est pas la forme que nous privilégions à France Culture. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et du reste, je m'en suis ouverte à Marc Weitzman juste après l'émission, qui en est lui-même tout à fait convenu. Le ton est monté, et c'est sans doute pas ce qui permet le mieux de comprendre les enjeux qui étaient en cours. Donc, je comprends très bien qu'il y ait eu des réactions. Après, je pense qu'au-delà de la question de la forme, le débat reste ouvert, et j'espère qu'il continuera à être mené sur les sujets très importants qui étaient l'enjeu de cette émission.
Pour finir, Sandrine Trainer, vous évoquez un livre signé Béatrice Denas.
Oui, écoutez, je pense que vous aurez plaisir, vous aussi, à l'évoquer rapidement en guise de conclusion, cher Emmanuel. Les auditeurs, les auditrices se souviennent sans doute de votre prédécesseur, votre excellent prédécesseur, Bruno Denas. Bruno Denas est devenu Béatrice Denas. Il a écrit un livre publié aux éditions First qui s'intitule « Ce corps n'était pas le mien » où il raconte comment le 13 février 2019, l'homme qu'il était et qui ne se sentait pas un homme dans son corps est devenu une femme. C'est un témoignage extrêmement fort d'un journaliste de cette maison que nous avons beaucoup apprécié et dont je souhaitais évoquer à la fois la vie et le travail en guise de conclusion.
Merci Sandrine Trainer.